La lettre pro de la radio, le podcast.
Et voilà, et nous sommes toujours en direct de l'Assemblée Générale du World DAB à Paris, qui dure pendant 2 jours. Vous pouvez laisser vos messages sur Twitter avec le hashtag WDAB17. Et on a l'honneur d'accueillir deux personnes qui représentent l'univers des radios indépendantes. Jean-Éric Valli, qui est le président des Indé Radios, et Alain Liberti, qui est le président du CIRTI. Bonjour.
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 Alors, vous sortez d'une table ronde qui a été très riche et surtout qui a commencé par l'annonce par le CSA du nouveau calendrier de déploiement du DAB, de la radio numérique terrestre, avec 15 zones qui seront en appel en un seul coup au premier semestre 2018. C'est une bonne nouvelle pour les radios indépendantes et pour la radio en général ?
Pour la radio en général et en particulier pour nos radios qui militent depuis très longtemps sur le DAB, c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour les auditeurs aussi, parce que la radio ne puisse pas leur offrir un son digital aujourd'hui en se cantonnant à la FM, c'est un petit peu saugrenu, sachant que le web est plutôt quelque chose de complémentaire qu'une vraie alternative à la FM, pour des raisons qui sont à la fois de non-gratuité, non-anonymat, de négociations compliquées avec des intermédiaires divers et variés qu'on connaît sur Internet, et notamment les GAFA, etc. Donc c'est vraiment très important que le CSA ait annoncé ça. Alors surtout, ce que je trouve très fort, c'est la rapidité. On est dans un monde qui bouge très 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 vite, et on se sentait assez mal à voir des appels s'égrener au fil du temps.
Oui. Alors vous avez des radios dans toutes ces régions. Les radios vont pouvoir postuler sur toutes ces zones en même temps, du moins pour les réseaux multivilles?
Bah, c'est la liberté après de chaque radio de choisir, mais oui, effectivement, on peut postuler en même temps sur tous les appels lancés.
D'accord. Alors il y a des zones qui vont rester dans l'ombre, qui viendront après 2020. On a vu aussi sur les radios associatives qu'elles postuleraient après. Et est-ce que il y a aussi un lancement qui va être de multiplex nationaux. Qu'est-ce que ça va apporter par rapport au lancement au calendrier précédent, qui était uniquement un déploiement par région?
Déjà, on va attendre de voir concrètement la présentation de ce calendrier, parce qu'il a été présenté aujourd'hui de manière assez surprenante. On ne s'y attendait pas. Monsieur Curien du CSA a annoncé une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas de mauvaise nouvelle. Donc il nous a vraiment donné le sourire et alléché avec ses annonces et avec ces deux vagues de déploiement. Maintenant, on va quand même être un petit peu prudent. On va attendre la présentation effective de ce plan de fréquence pour en tirer des conclusions et peut-être nous projeter sur ces appels de manière extrêmement concrète.
Alors une question qui est un peu bête, qui est plus sur l'univers publicitaire, donc peut-être Jean-Éric. Est-ce que avec le déploiement du numérique, est-ce que le marché publicitaire peut accepter de nouveaux acteurs? On voit qu'il y a des nouveaux projets en radio numérique. Est-ce que le marché publicitaire radiophonique peut intégrer de nouveaux programmes, de nouveaux éditeurs?
Alors on a toujours le sentiment que le marché publicitaire n'est pas extensible. Il peut y avoir un partage de ressources. En fait, s'il y a trop de nouveaux entrants, ça peut être un problème pour les radios existantes. Après, on n'est pas dans quelque chose de totalement rationnel dans le domaine de la publicité. Ça relève aussi parfois d'une conviction que peuvent avoir les annonceurs ou les agences médias ou les agences de publicité. S'ils sont enthousiasmés par la dynamique créée par un média, ils aiment bien la radio en général parce que humainement, je le disais tout à l'heure lors de la conférence, 8 Français sur 10 écoutent la radio tous les jours. Donc, Il y a une adhésion assez spontanée. Donc je pense que c'est de nature à créer un petit surplus, un élan supplémentaire. Donc finalement, s'il y a un petit peu plus d'argent et qu'on partage un petit peu plus, c'est pas forcément très grave. Voilà. Maintenant, il y a une équation à laquelle sans doute le CSA devra être attentif. C'est qu'il n'y ait pas une infinité de radios, parce que là, on aura une baisse de qualité.
De toute façon, le DAB, voilà, N'offrira pas une infinité de radios.
Non, c'est pour ça que je dis ça avec... c'est un peu intellectuel, quoi. Je ne suis pas spécialement inquiet par rapport à cette dynamique. Je pense qu'elle est plus positive que négative.
Oui, et si je puis me permettre, Jean-Éric, je vais faire un peu une figure de style, mais moi, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a déjà des nouveaux entrants. Il suffit aujourd'hui de se connecter à Internet pour voir une foultitude de nouvelles radios, sans parler des web télé et autres. Donc, on est déjà aujourd'hui face à une nouvelle concurrence exacerbée. Donc je pense qu'il est plutôt urgent, au contraire, d'affirmer la différence qu'est la radio par rapport à l'IP et de maintenir une véritable offre broadcast avec tous les avantages que ça offre. Et notamment, parce que tu l'as rappelé Jean-Éric, et ça c'est vrai que c'est un élément qu'on oublie très souvent, c'est la simplicité d'utilisation. Pour la radio, il suffit d'appuyer sur un bouton et ça marche.
On a vu aujourd'hui un très fort soutien du régulateur pour ce lancement de la RNT. Qu'en est-il des pouvoirs politiques ? On a vu la semaine dernière la ministre de la Communication, Françoise Nyssen, qui était relativement précautionneuse, disons, pour ce lancement, tout en le soutenant. Qu'est-ce que vous attendez de plus du gouvernement ?
Je pense que le politique fait toujours une équation entre ceux qui vont être mécontents et ceux qui vont être contents. Donc qu'une ministre soit modérée dans ses propos, c'est assez naturel. Je serais tenté de dire quelque chose d'un tout petit peu provocateur, c'est que je crois que pour ma part, j'attends rien du tout. Ils ont tellement tergiversé pendant des années, des années, des années. Parce que quelques groupes qui se comptent même pas sur les doigts d'une main ne voulaient pas de la RNT en n'ayant pas réfléchi, je pense, réellement à la question, c'est-à-dire la question de l'auditeur et de l'offre qui existe sur Internet. Donc ils ont tellement tergiversé qu'on s'est habitué à faire un peu sans eux. Donc nous, ce qui nous importe, c'est que le CSA applique la loi, qui date un peu maintenant. C'est ce qu'ils ont apparemment l'air de faire, alors avec une façon plus dynamique qu'ils auraient pu le faire. Donc ça, c'est très positif. Mais en gros, voilà, notre interlocuteur, il est là. Après, les pouvoirs publics, est-ce qu'ils vont... Peut-être que si ils se mettent au clair avec Radio France, ça serait pas une mauvaise chose. Parce que le président de Radio France, Mathieu Gallet, il est complètement dans une dynamique d'aujourd'hui. C'est une question générationnelle. Je crois qu'il n'envisage pas qu'on fasse pas de la radio numérique à très court terme, en vérité.
Enfin, c'est une question de budget,
principalement. Je parle à sa place, mais... Oui, enfin, c'est une question de restructuration, peut-être, quand même. Parce que quand on a 700 millions d'euros de budget, on peut quand même trouver un peu d'argent. Ils ont quand même arrêté les grandes ondes. Enfin bon, je pense que bon, c'est plus une question de volonté que réellement d'argent. C'est une question de prise de conscience aussi, de se mettre dans la peau de l'auditeur, de sentir que l'auditeur a une marge de tolérance par rapport à nos retards. Mais à un moment donné, il y a un switch qui se passe. Voilà, donc bon, moi je pense que peut-être le politique peut donner un signal qui est de dire on arrête de se raconter un film. Le DAB, c'est inexorable. Les fréquences seront analogiques en Europe à un certain horizon. C'est inexorable. Donc arrêtons de dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche. Oui, pardon, excusez-moi, je suis tellement imprégné de la FM. Seront numériques à un certain horizon. Donc arrêtons de se raconter, de savoir si ça marche ou si ça marche pas. C'est vraiment stupide. Puis quand on regarde le déploiement qui se passe dans les pays limitrophes à la France, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Il y a plutôt une course de vitesse par rapport à Internet.
Oui, et puis j'aimerais aussi qu'on arrête systématiquement de parler en fait d'argent. Parce que c'est vrai qu'on a entendu plusieurs fois aujourd'hui, lors des divers débats, la problématique de Radio France remise sur le tapis, qui serait qu'ils voudraient bien y aller, mais il y a un problème de financement. Jean-Éric, tu rappelais qu'ils ont un budget aujourd'hui de 700 millions d'euros. Je pense que j'aimerais bien avoir ces mêmes problèmes budgétaires en fait. Tout dépend de savoir comment on gère sa boutique. Et qu'est-ce qu'on fait de ces moyens extrêmement importants ? La véritable question qu'il faut se poser, ce n'est pas une question budgétaire, c'est qu'est-ce que l'État veut pour le service public audiovisuel français et pour sa radio ? Est-ce qu'aujourd'hui, la radio française mérite d'être absente de cette vague européenne de radio numérique ? C'est plutôt ça la vraie question à laquelle aujourd'hui nos dirigeants doivent répondre. Je pense que la question, pour nous, est évidente.
C'est... Concernant les grands opérateurs privés, Nicolas Curien disait tout à l'heure à notre micro qu'il avait vu dans les résultats de la consultation un frémissement d'intérêt. Est-ce que pour vous c'est essentiel de voir au moins, disons, quelques grandes radios nationales, hormis le service public, donc rejoindre l'aventure de la RNT ?
Bah,
Il y a deux écoles.
Ouais, voilà. Alors, je vais me lancer dans une école. Moi, j'ai le souvenir qu'en 1981, on n'a pas attendu que ces messieurs viennent sur la FM pour lancer nos radios, pour attirer un public gigantesque. S'ils n'ont pas envie de venir, ils vont juste passer à côté de leur histoire. Voilà, maintenant j'ai pas.
Ils courront après, comme oui. À l'époque de la FM, oui. Je rappelle qu'ils ont fini par racheter à coups de millions ouais. Des fréquences FM. Hein. Ouais. Ouais.
Et puis ils ont obtenu aussi quelques passe-droits avec un, je crois que c'était un décret ou un arrêté ministériel qui leur a donné le 104.7, le 100.
En 1987.
Ouais, voilà. Bon, je pense qu'on est dans une époque moderne d'aujourd'hui. Il se trouve que beaucoup de choses ont changé dans ce pays positivement. Il y a une nouvelle dynamique qui s'est créée au niveau politique. Il y a une nouvelle dynamique, je pense, qui se crée dans beaucoup de services publics. Voilà. Moi, j'ai un peu l'impression qu'ils se sont trompés, nos confrères, purement et simplement. Et c'est pas interdit de se tromper, même quand on s'auto-qualifie de grand. Ils se sont trompés. Ils le savent. En vérité, ils le savent. Et je pense qu'au pied du mur, ils pourront pas se dire qu'ils ne seront pas dans un appel à candidature. Sauf si le CAC leur dit « Vous pourrez être dans le second ». Quand les premiers ont fait tout le boulot, vous pourrez être dans le second. Là, forcément, ils ont envie d'être dans le second. Ça ne me gêne pas. Je pense que ça n'aura pas d'incidence, en tout cas, sur nos audiences. Voilà. Par contre, qu'ils monnaient leur arrivée parce qu'on a présenté ça comme une nécessité, ça, c'est totalement inacceptable. Voilà. Aujourd'hui, la FM, c'est 60% de fréquence pour eux. Ça ne sera pas ça en DAB. Alors, ça veut dire qu'on est resté au Moyen-Âge. Donc, on est dans un pays moderne où on respecte le droit des uns et des autres. Et nous avons des droits à avoir des vraies fréquences, une vraie dynamique, à ce qu'on applique la loi, tout simplement, sur le digital. Voilà, et donc il n'y a pas de passe-droit. Ils n'ont pas à monnayer comme des divas, on vient pas, on va voir, on machin. Voilà.
Et en parlant de loi, il y a une loi formidable qui est la loi sur l'audiovisuel et qui permet dès à présent de lancer sans aucun problème des appels à candidature partout en France pour lancer le DAB. Donc on en revient vraiment au tout début de la discussion et de ces polémiques. En fait, c'est aujourd'hui dans les mains des pouvoirs publics. Il suffirait qu'eux aussi appuient sur un bouton de manière définitive pour lancer le DAB. Après, que les grands acteurs nationaux suivent ou ne suivent pas, ça c'est une autre question. Il y a une loi, et ce serait bien que cette loi, enfin, soit appliquée et qu'elle permette à la France de suivre ce mouvement européen aujourd'hui, parce qu'on voit que dans de nombreux pays, il y a des études qui ont été présentées encore ce matin, et tu les rappelais tout à l'heure lors de notre intervention, Jean-Éric, quand les auditeurs ont le choix entre une technologie IP qui est parfois compliqué d'accès, où on a besoin d'avoir une connectivité qui fonctionne bien, et une technologie broadcast facile d'accès, gratuite et immédiate, très simple d'utilisation, comme la radio numérique, on voit que la radio numérique surperforme 3 à 4 fois plus que la technologie IP. Donc voilà, répondons tout simplement à cette problématique aujourd'hui, appliquons la loi et répondons à l'attente des auditeurs français qui restent à la traîne aujourd'hui par rapport à tous ces auditeurs européens. Aujourd'hui, je crois que c'est 17 millions d'auditeurs quotidiens en Europe qui écoutent la radio digitale.
Alors une dernière question qui ne concerne pas le DAB. Récemment, le gouvernement a lancé une consultation pour assouplir les secteurs de la publicité à la télévision. Donc le CIRTI a signé une tribune avec plusieurs autres médias historiques, dont le groupe Lagardère et la presse quotidienne régionale, et peut-être nationale, je ne suis pas sûr. Donc ça vous concerne à la fois le CIRTI, mais aussi les Indes Radios. Pourquoi être vent debout contre ces mesures d'assouplissement ?
Nous sommes vent debout pour une raison extrêmement simple. Il faut se rappeler pourquoi cette protection a été instaurée à une certaine époque. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui il y a déjà une fracture concurrentielle de fait entre le service public et les radios privées. Déjà dans la distribution du nombre de fréquences, mais également dans les attributions budgétaires. On a vu que ces dernières années, le service public a pu venir grappiller quelques dizaines de millions d'euros, 40 millions d'euros sur le marché publicitaire privé. On a vu aussi et on a travaillé de concert avec les Indes Radios sur certains chiffres et certaines études que le budget investi publicitairement par la grande distribution pour les radios, en tous les cas pour nos radios indépendantes, représente environ 45 à 50% du budget investi au niveau national.
Donc un spot sur deux concerne la grande distribution sur vos antennes.
Je ne sais pas si c'est un spot sur deux, mais c'est en gros 45 à 50% du chiffre d'affaires. Et quand on regarde localement également l'économie de nos radios qui font du local et qui ont des régies locales, on est peu ou prou à peu près dans les mêmes proportions. De la même manière, et on s'est associé aux principaux syndicats de presse quotidienne et de presse régionale, cette proportion parfois même va jusqu'à 60-70% des revenus de la presse. Si demain, cette manne financière était mise à portée des grandes chaînes de télévision, on peut imaginer le mal que ça ferait au tissu local et à nos entreprises, en fait, et à nos médias qui garantissent aujourd'hui le pluralisme des produits, le pluralisme des idées, mais aussi qui garantissent d'une certaine manière la liberté de réception de nos auditeurs. Donc, est-ce que véritablement les télévisions en ont besoin? L'argument avancé, c'était la protection par rapport à l'explosion du digital et au search et aux réseaux sociaux. Est-ce que la vraie solution, elle est d'aller prendre dans la poche des médias locaux qui aujourd'hui rendent un véritable service de proximité pour le donner à des grandes chaînes nationales? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux plutôt se mettre tous autour d'une table et lancer une grande concertation et réflexion sur les problématiques économiques intrinsèquement liées au développement de l'économie numérique? Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore normal que des géants comme Apple et Google ne payent pratiquement pas d'impôts en France alors qu'ils vivent et qu'ils génèrent des dizaines, des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires? S'il y a des millions à aller chercher, je pense que c'est plutôt là, plutôt que d'aller dépouiller un marché qui, ces dernières années, a déjà souffert de cette même situation du digital, d'ailleurs.
J'ajouterais d'ailleurs que je regardais, je ne sais plus quelle chaîne annonçait qu'il pouvait gagner 150 millions d'euros supplémentaires. Je ne crois pas que 150 millions d'euros supplémentaires changera la problématique des télévisions face à Internet, face à la délinéarisation des contenus. C'est rien du tout, en fait. Donc déstabiliser tout un média qui intéresse 8 Français sur 10 tous les jours, c'est pas très raisonnable. D'ailleurs, pour moi, j'étais assez déçu de cette consultation qui s'appelle simplification.
Vous y avez répondu?
Oui, on y a répondu, bien sûr. Je suis très déçu que, d'abord, de l'existence de cette consultation, enfin de cette démarche plutôt. C'est bien qu'on nous consulte, mais c'est voilà, que ça s'intitule simplification, c'est vraiment nous prendre pour des bourricots. Je veux dire, c'est un langage qui n'est pas digne d'aujourd'hui. On est des gens normaux, des partenaires d'un pays, on est des acteurs économiques, on ne peut pas nous raconter qu'on va simplifier un truc. Peut-être le désert est simple. D'ailleurs, ce n'est pas vrai. Quand on le regarde de près, il est plus compliqué que ça. Donc pour moi, il y a un problème de méthode. On ne peut pas se dire, parce qu'on a dû discuter entre deux portes vite fait, bon allez, on va arranger un truc. En plus, ça...
C'est un peu comme l'histoire des quotas, alors.
Oui. C'est un truc... les quotas, c'est aussi entre deux portes avec la machine à écrire de la SACEM pour envoyer un amendement. On n'est pas dans quelque chose qui est raisonnable aujourd'hui. Je veux bien que ce soit la France des années 60, mais on est quand même en 2017. Donc cette approche comme ça, de se dire allez, on va simplifier des choses, en fait, on va alléger en vérité des contraintes pour un acteur, pour des acteurs télé, en s'occupant absolument pas du reste, mais c'est pas raisonnable aujourd'hui. On est dans une logique de performance économique, de lutter contre le chômage, contre un certain nombre de disparités sociales dans le pays qui deviennent de plus en plus dangereuses. On est dans un danger. Et on vient comme ça, pof ! Je trouve ça mais vraiment complètement surréaliste.
Et ce qui est très surprenant, c'est l'extrême rapidité avec laquelle cette consultation a été lancée, sans aucune étude d'impact économique préalable. Alors, la DGMIC qui a lancé cette consultation, se doute bien en lançant cette consultation avec les sommes que l'on évoque, vous parliez de 150 millions évoqués par une chaîne, qui a un impact économique sur d'autres. Je veux dire, l'argent, il ne va pas se multiplier comme les petits pains, c'est bien dommage. Les ressources publicitaires sont limitées, d'autant qu'elles sont de plus en plus absorbées par le digital. Donc la véritable question qu'aurait dû se poser la DGMIC, c'est d'abord, faisons une étude économique de l'impact que pourrait avoir une telle mesure, et ensuite, lançons une consultation sur la base des résultats de cette étude. Mais là, aujourd'hui, ça nous semble un petit peu jouer d'avance quand même. Alors
c'est la pratique d'un pays qui vit dans les années 60, où les budgets du marché publicitaire augmentent tous les ans de 10%, 20%, sans qu'on travaille, sans qu'on se pose de questions, sans qu'on soit subtil dans les produits qu'on vend. Et c'est une logique complètement obsolète. Donc c'est pour ça que je disais que c'est décevant, puisque nous avons élu un nouveau président, on a un nouveau gouvernement qui a une dynamique plutôt... trentenaire, quaternaire, plus jeune, quoi. Là, on nous a exhumé des méthodes complètement dépassées.
Et vous pensez que RTL et NRJ, qui appartiennent à des groupes qui font aussi de la télé, font un mauvais calcul en ne signant pas, un communiqué?
Je pense qu'ils font pas de calcul. RTL appartient à M6 désormais. Donc ils disent oui, chef, bien chef, clac.
Mais NRJ fait puis, encore NRJ... une grosse partie de son chiffre
oui.
en radio.
Je pense qu'il y a beaucoup de... Je me permets de le dire avec beaucoup d'amitié, il y a beaucoup d'irrationnel chez NRJ en vérité. Et ils ne sont pas forcément dans une réflexion de très long terme, ils sont souvent dans la réactivité instantanée, ce qui peut avoir des avantages à certains moments. Donc sur ce sujet, je les ai trouvés vraiment bizarrement absents. S'ils se racontent qu'avec un tout petit point d'audience par-ci par-là sur leur chaîne, la grande distribution va les rendre milliardaires du jour au lendemain, je pense que là, ils se racontent vraiment des films, ce n'est pas eux qui capteront ces budgets. L'audience, c'est ce que nous vendons. Pourquoi les radios indépendantes ont un succès ? Parce que nous vendons beaucoup d'audience. Pas parce qu'on est gentil, beau, qu'on fait je sais pas quoi. C'est pour le marché publicitaire, c'est très très basique.
Et une dernière question à Alain Liberti. Quels sont les autres chevaux de bataille du CIRTI actuellement ?
Vous avez une heure devant vous.
Non, après c'est... Non, en quelques mots.
Non, bah, cette logique économique forcément est importante. On a lancé récemment une très grande consultation auprès des adhérents du CIRTI parce qu'on le veut plus proche des réalités du quotidien des radios qui nous composent. Voilà, donc on va par exemple proposer prochainement au conseil d'administration la création d'un bureau spécial qui sera à l'écoute d'un guichet adhérent qui leur permettra d'obtenir des renseignements, des fiches pratiques, notamment pourquoi pas sur le DAB, sur la radio numérique, parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses sur de certains nombres de sujets qui restent encore aujourd'hui en tête de certains de nos adhérents et sur de nombreux sujets. On travaille évidemment de manière très active sur les quotas de chansons d'expression francophone. Véritablement, le CIRTI et les radios qui le composent depuis maintenant 25 ans. Vous savez, moi, je suis un homme de programme encore aujourd'hui. Je veux dire, je suis certes président du CIRTI, mais je continue au quotidien à fabriquer du programme pour une radio régionale. Et chaque jour, on diffuse beaucoup, beaucoup de musique, on découvre des artistes. Moi, j'ai pour habitude de dire que nous, on n'est pas là forcément pour soutenir des quotas et pour soutenir une industrie musicale. Nous, on est là pour diffuser des artistes, des œuvres. Alors moi, ce qui me plaît, c'est la culture dans tous les sens du terme. Et j'aimerais qu'on arrête de créer cette confusion permanente entre les maisons de disques, d'un côté, et les artistes. Les artistes, ce sont les artistes. Les maisons de disques, ce sont des vendeurs d'art. Voilà. Et je connais beaucoup d'artistes, puisque malheureusement, ça fait bien longtemps que je suis dans ce métier. J'en ai vu passer beaucoup. Certains sont devenus des amis. Et les jours où ils ne vendent plus de disques, on leur dit merci, au revoir. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Je veux dire, les maisons de disques, ce sont avant tout des marchands d'art. Et ils ont leur place et ils ont une importance aujourd'hui dans l'économie de notre pays. On a besoin d'eux aussi pour financer, pour développer de la musique que derrière nous allons diffuser. Mais n'oublions pas que le marché aujourd'hui est totalement différent de celui qu'il était il y a 25 ans quand cette loi est sortie. Il y a les géants du net qui arrivent, il y a les pure players. Nos auditeurs aujourd'hui ont la facilité d'écouter de la musique presque gratuitement, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc je pense qu'il est urgent aujourd'hui que l'ensemble des acteurs de la filière musicale, et la radio fait partie de la filière musicale, on a trop souvent tendance à l'oublier, se mettent autour d'une table et discutent et réfléchissent à l'avenir des quotas. Les quotas, ils peuvent avoir un avenir, mais il faut le redéfinir complètement. Aujourd'hui, si on applique la loi de manière stricte et claire, les radios communautaires, les radios généralistes, toutes les radios, quelles qu'elles soient, les radios thématiques, devraient toutes appliquer de la même manière les quotas à la lecture de la loi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y a une fracture de concurrence, il y a une fracture de traitement par l'autorité de régulation. Donc pour nous, c'est véritablement un très très gros dossier que nous prenons à bras-le-corps. Puis après, vous verrez, on aura l'occasion de faire beaucoup d'annonces. Voilà, le CIRTI s'est renouvelé. On rentre véritablement dans une ère du concret. Je vous ai parlé de cette étude faite auprès de nos adhérents. Il y aura encore beaucoup d'autres choses à venir dans les mois qui viennent.
D'accord. Merci beaucoup Alain Liberti.
Je vous en prie.
Et merci Jean-Éric Valli.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
La La lettre pro de la radio, le podcast.